L'envers de rien. Une nouvelle de Fabrice Descamps. Dès demain, deuxième jour de classe, Cathy se fera lointaine. On l'aura mise en garde contre toi. Toi, qui n'as jamais fait de mal à une mouche, et tu comprendras, ou peut-être bien que non, qu'il ne pouvait en être autrement. Alors, profite. Tant que tu peux de l'instant présent, de la récréation matinale du premier jour d'école. Tout seul dans ton coin, comme d'habitude, la petite nouvelle reste à l'écart, elle aussi, intimidée, en repli. Les autres filles l'observent de loin et la snobent. Vos regards se croisent, tu hausses les épaules, puis tu souris, bêtement ravie. Elle est si belle, et tu te sens tout drôle, captivée par la lumière dans ses yeux. C'est comme le soleil quand il frétille à la surface de la rivière. Vous vous rapprochez l'un de l'autre, le long du muret, au fond de la cour. Elle est vraiment jolie, davantage encore de tout près. « Je m'appelle Cathy », elle te dit, et tu ne peux que répondre en riant. « Hugo !» Oui, dès demain, elle refusera de t'appréhender davantage et rejoindra le rang très serré, unanime, de ceux qui se défient de toi, de celles que tu effraies par ton absolue différence. Dans quelques jours à peine, oubliant ce qu'elle a entrevu, l'insaisissable beauté qui te traverse et te porte, elle parlera de toi comme tous les autres. « Hugo le cinglé », dira-t-elle. Pas à tortiller, demain sera intense et pénible, ton petit cœur brisé, ton âme folle émiettée. Les yeux de Cathy, glissant sur toi sans plus te voir, se feront plus durs avec le temps, et, lorsque tu voudras t'approcher, elle aura de ses audaces d'anguille, des sursauts mitonnés à la poudre d'escampette, prendra des airs effrayés et des jambes à son cou. Rien qu'en t'apercevant de l'autre côté de la place du marché. Mais ta tristesse ira vite en s'effilochant dans le labyrinthe de ta tête embrouillardée. Tu n'es pas de ceux qui se cramponnent à leurs blessures, ruminent leurs cicatrices. Non, toi, tu les enfouis 6 pieds sous terre, toutes ces choses qui t'échappent, qui t'échapperont toujours. Faire retour sur soi, nommer tes sentiments, reconnaître tes émotions. Tu souffres, ça oui, mais ce n'est pas là que ton regard se porte. Tu ne lances jamais de questions à la face du jour d'après. Tu ne mets pas ta propre vie en fiction, ton existence en équation. Peu importe le nombre d'inconnus élevés à quelle puissance. Qu'est-ce que tu t'en fous, des rêves d'avenir, des projets grandioses. Mieux encore, tu ne sais même pas que tu t'en fous. Tu ne devines pas ces élans chez les autres. Ses envies de lendemain qui chantent. Les trilles des rossignols te suffisent et te comblent, tes propres rêves à portée de main, à portée de vie, courir dans la forêt, dévaler la pente raide de la combe entre les rochers glissants tapissés de mousse et la chanson de la rivière qui se faufile et bouillonne en contrebas, qui n'attend plus que toi pour que tout soit parfait, te laisse transi de bonheur. Tes vêtements déjà jetés en boule sur la rive, tu ricanes d'extase, nu comme un ver, et pénètres dans l'eau jusqu'à mi-cuisse. Rien ne vaut ça, pour toi, ne le vaudra jamais. L'idée de la réussite, les diktats de la bonne conduite, les perspectives d'un chemin glorieux ne t'effleurent pas une seconde. Rien ne tient longtemps la marée dans ta caboche. Et tout ce que le maître veut y faire entrer de connaissance finit très vite par ressortir, nul ne sait par quel trou. Il te suffit de regarder une seconde par la fenêtre, un oiseau passe, ou bien c'est un nuage, ça enveloppe mieux encore un nuage, une minute ou deux, et le soleil frappe le carreau, te retient, tu jubiles tant c'est beau. Mais quand le maître t'interroge, 3 fois 3 ? Demande-t-il depuis une dimension parallèle. Tu ne sursautes même pas. Il lui faut venir te soulever par l'oreille pour te faire réagir. 3 fois 3, répète-t-il. Et la question t'échappe déjà. Il pourrait aussi bien te parler en chinois, mandarin. Tu vis dans les limites de l'instant, où tout se prête et s'ouvre à tes envols, où la sensation est tout ce qui compte, l'intensité de ce que tu éprouves, ici et maintenant, ton seul credo. La vérité, c'est que ton oreille est tout de même solidement fixée au reste de ta personne et que ça fait un mal de chien quand le maître tire dessus comme s'il voulait la ramener chez lui ce soir. Alors tu grimaces. Tu le regardes par en dessous d'un air mauvais, ce qui te vaut souvent une bonne calotte à l'arrière de la tête, pour prix de ton impudence. Tu n'es pas taillé pour l'esquive et les trucages, les entourloupes et les coups bas, les jeux auxquels tu perdras toujours, et les manœuvres du faux-semblant te sont étrangères. Tu n'agis que par fulgurance, au gré des séismes qui te secouent, des envies qui te prennent entre un battement de cœur et le prochain. Ta spontanéité, souvent prise pour de l'inconséquence, ta curiosité insatiable des petits riens, confondue avec une forme de perversion abâtardie, ta crânerie légère, chaque fois perçue comme l'expression d'une vive insolence, ton espièglerie sans calcul, taxée de je m'en foutisme, alourdissent les regards qui se posent sur toi, et pointés comme des flèches assassines, enveniment les propos des uns, enhardissent les brimades des autres. Les sentences péremptoires, les zéros pointés, les coups de règle sur les doigts, pleuvent sur toi, et c'est à peine si tu cherches un abri, à peine si tu t'essayes à d'impossibles zigzags pour passer entre les gouttes. Tu ne trembles même pas sous le déluge, parce que plus rien ne t'effraie, rien ni personne. Pas depuis que ton daron a calanché au fond de l'étable. Rupture d'anniversaire, répéteras-tu à qui voudra le savoir, l'anévrisme n'étant pas dans tes cordes. Et il s'était passé 4 ou 5 heures avant qu'on ne le retrouve. Ton daron raide mort, le corps tout déformé, le crâne enfoncé sous les sabots des vaches remuantes, impatienté par la douleur d'une montée de lait tirant en longueur. Après Cathy, tu n'auras pas un seul mouvement pour te détourner de tes manies enracinées, de tes habitudes sereines décervelées, de tes us et coutumes buissonnières, de tes rancards sans volte-face au bord de l'abîme, marchant les yeux fermés le long de la corniche surplombant la combe où tant d'autres avant toi sont venus se jeter tête la première. Mais tu n'es pas de cela. Tu ne le seras pas, ni ce jour, ni le suivant. Tu partiras sur les chemins, libre de toute entrave, ivre de tout ce qui vient, les cheveux en bataille, l'âme résolue, avec tes yeux fous de chien errant, et tu grimperas au sommet des plus grands arbres en poussant des cris de bêtes sauvages. Tu aimeras aussi t'endormir au bord des torrents, le visage tout contre le sol, et quand tes yeux s'ouvriront, tu resteras là, longtemps, à observer une coccinelle, une sauterelle, ou une colonne de fourmis maraudant entre les brins d'herbe. Encore un temps, tu continueras à poser et à relever tes pièges. Ta daronne sera contente chaque fois que tu ramèneras un lapin. Elle te fera la fête, en riant comme une damnée, déjà bien trop saoule pour l'écorcher et le mettre en cocotte, comme autrefois, il n'y a pas si longtemps, avec des oignons, de l'ail et des champignons. Et quoi ? On ne peut quand même pas tout avoir. Tu ne mangeras pas tous les jours à ta faim, mais au moins, tu ne seras plus jamais fouetté à coups de ceinturon par ton paternel. Tu rebondiras de solitude en solitude, avec souplesse et solidité, pareil au galet que tu envoies si habilement ricoché à la surface translucide de la rivière, peigné par les détours du courant, le bleu du ciel coulant dans tes veines, le vent dans les feuillages comme une voix dans ta tête, et tu reviendras grandi de tes errances, les avant-bras et les jambes fouettés par les ronces, les pieds nus, tailladés par les cailloux des sentiers. Une autre fois, disparu depuis 3 jours, les joues violacées par le jus des mûres sauvages dont tu te seras nourri, tu rentreras à la ferme entre 2 gendarmes qui t'auront ramassé par hasard, au bord d'une route. À peine débarqué dans la cour, encore tout excité par le trajet du retour à bord du panier à salade, tu auras oublié le sermon de l'adjudant-chef. Les gendarmes en feront une de ces tronches en pénétrant dans la cuisine sur tes talons. Ils verront aussitôt le dernier lapin mort, raide comme une planche, laissé depuis 4 jours en travers de la table sous un nuage de mouches, la gueule, le trou de balle et les yeux blanchis par les asticots. Sans même oser faire un pas de plus là-dedans, les deux gendarmes, blême pour l'un, verdâtre pour l'autre, se pinceront les narines, et l'adjudant-chef lancera à la cantonade que « C'est la gendarmerie, Madame Pelletier, vous êtes là ?» Et pour la première fois depuis longtemps, tu auras peur. Peur du long silence qui s'ensuivra. Après l'enterrement de ta daronne, tu resteras quelque temps chez un oncle, dans une autre ferme, un peu à l'écart d'un village voisin. Comme toujours, les autres enfants se détourneront très vite de toi. Tu es si étrange, doux et indomptable. Rien de changé à ça. Là-bas, tu ne seras plus Hugo le cinglé, juste le fils de la pendue. Les plus méchants ricaneront dans ton dos, voire juste sous ton nez, les pauvres fous, qui n'auront jamais idée de toi, jusqu'à quel degré tu es vrai et intense. Le temps passera vite, avec de premières crises, quelques fugues avortées, et, à tes retours au bercail, l'oncle aura la main leste, avec une préférence pour le martinet. Pendant qu'il te fouettera jusqu'au sang, tu l'entendras gueuler qu'il avait pourtant prévenu son frère de ne pas épouser l'autre folle. Me voilà bien, maintenant avec un gosse timbré sur les bras. L'école te poussera aussi très vite vers la sortie. Tu n'auras rien appris, rien retenu, et on te traitera d'idiot. Analphabète et inculte, tu feras l'embarras de ton oncle, toi qui lis si bien dans le vol des oiseaux, la course des nuages, le glissement justifié des saisons, le geste des arbres, le roman des pierres, le galop d'un cheval, le refrain des merles, tout ce que le monde veut te dire. Et l'oncle trouvera à te placer comme apprenti à l'abattoir tout proche. Mais tu n'es pas un imbécile. Avec l'âge même, tu auras gagné en prudence, et tu feras juste mine d'être d'accord, ourdissant déjà le plan de décamper la nuit suivante. Tu partiras en courant droit devant toi, sous les étoiles, droit devant toi, sans t'arrêter en direction du bout du monde. Il faut bien qu'il existe, te répéteras-tu. Mais ils te rattraperont encore. L'oncle ne voudra plus de toi, cette fois, et selon lui, tu seras, petite vermine ingrate, la cause d'un très vif chagrin chez sa femme, qui aura pourtant pris l'habitude de te botter le cul à coups de sabots pour un oui ou pour un non. Ton absolu déracinement te tuera à petit feu, lardé de coups de poignard à la seule pensée de tes arbres, de tes oiseaux, de ta rivière. Tu atteindras ta 13e année, après 16 mois à l'orphelinat, dans une alternance dangereuse entre le renoncement à tout et la colère dévastatrice. En classe, ton nouveau maître aura vite jeté l'éponge avec toi, et tu passeras ton temps dans un coin au fond de la salle, avec du papier et des crayons de couleur. Avec la puberté, tes sautes d'humeur incontrôlables deviendront problématiques, et à ta première tentative de suicide, l'orphelinat passera la main, direction l'HP. Des hommes et des femmes en blouse t'y inspecteront sous toutes les coutures, évalueront tes aptitudes, tes caractéristiques, tes retards, le désastre de tes potentiels, le niveau de ton QI et tutti quanti. Privé de liberté, tu te débattras plus fort encore et de plus en plus férocement. On te demandera ce qui ne va pas chez toi, pourquoi tu débloques. Camisolé, tu te jetteras de toutes tes forces contre des murs matelassés, mais on te remettra d'aplomb pour que tu tiennes comme on veut, à coups de picouze et de médoc dernier cri. Encotonné, vitrifié, passé à la moulinette tu t'enfonceras dans des vertiges mous, épineux, une longue brume glacée de chaque instant, ta mémoire perdue d'avant la mort. Un an après ton internement, un homme se présentera à l'HP pour te rencontrer. On sera navré de lui apprendre que c'est impossible. Deux jours plus tôt, parvenu à te soustraire à la vigilance de tes gardiens, tu auras gagné le toit pour te jeter dans le vide. Mauvaise conjonction, la triste nouvelle frappera l'homme de plein fouet. Arrivé trop tard, blêmi par la ruade, il grimacera, répétera que « non, ça ne se peut pas, que non », les larmes aux yeux, serrant tout contre lui, un vieux cartable élimé, dont il finira par extraire une grosse pochette en carton contenant tous tes dessins du temps de l'orphelinat. Une liasse de 307 trésors, tous paraffés d'un H majuscule saisissant de beauté, tous passés inaperçus. Suis tombé dessus par hasard, un jour de tri, dira l'homme, en tremblant de haut en bas. Ce gamin était un pur génie, et j'ai bien failli tout bazarder dans la benne de recyclage.